j'ai pas été trop tranquille, hein. Je suis encore plus fatiguée. Je suis dégoûtée, ça se rembourse pas, ça. Du temps, c'est du temps.
Du temps perdu pour cette voyageuse, surprise comme pour des milliers d'autres ce week-end par la grève. Le trafic doit reprendre progressivement ce matin et la SNCF promet des remboursements à 100%.
Toujours pas parti, le Parlement britannique a voté pour un report du Brexit hier, un revers pour Boris Johnson qui veut un nouveau vote dès cette semaine.
L'offensive turque se poursuit dans le nord de la Syrie malgré la trêve négociée par Washington avec Recep Erdogan, le président turc en pleine reconquête de popularité dans son pays.
Belle réussite ce matin sur Europe 1. Zoom sur le plein emploi dans le Maine-et-Loire.
Ce qu'on fait ici, demain, on ne peut pas le créer autre part. Ça repose sur des années de travail ensemble qui fait qu'on arrive à un niveau de résultat, que tout le monde a envie d'y arriver.
Des chefs d'entreprise heureux et qui recrutent, c'est le miracle du territoire des Mauges. Reportage dans ce journal.
Et puis combien seriez-vous prêt à payer pour acquérir une pierre tombée du ciel?
C'est une météorite qui pèse 364 kilos, qui est un peu ocre, marron et qui est estimée 80 000 à 120 000 euros.
C'est une vente aux enchères inédite qui se tient aujourd'hui à l'hôtel des ventes de Drouot à Paris. C'est donc 130 objets venus de l'espace et parmi eux, des météorites.
6h01, bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Chloé Triomphe.
L'espoir d'une reprise progressive du trafic ce matin après un week-end de pagaille dans les trains. Le président de la SNCF a promis des remboursements à 100% et le déblocage d'un fonds d'1 million d'euros pour les dédommager. À la gare Montparnasse à Paris, les réactions des voyageurs sont partagées. Reportage Pierre Herbulot.
À voir. Je demande à voir.
Après une journée de galère entre trains retardés, re-retardés, puis annulés, Sylvie et son mari sont contraints de repousser leur retour de vacances. Les nouveaux billets coûtent 130 euros plus cher, des frais supplémentaires que le président de la SNCF s'est engagé à rembourser. La jeune retraitée est sceptique.
Si c'est engagé, on va lui faire confiance, on va essayer. J'ai un peu de mal à le croire sur le deuxième billet là dont on parlait. Maintenant, je vais effectivement écrire et je verrai bien ce qu'il en est.
Même les autres frais de transport liés aux annulations de trains seront pris en charge, a annoncé Guillaume Pépi, comme un billet d'avion ou les 35 euros de covoiturage que Lise a dû payer pour rejoindre Rochefort depuis Poitiers hier soir.
J'espère bien parce que c'était pas prévu en fait.
Ça vous paraît normal en fait?
Bah ouais, quand même. Il y a quand même bousillé mon week-end. Hein. Moi, je travaille du lundi au vendredi. J'ai que mon week-end pour être tranquille chez moi. Et au final, j'ai pas été trop tranquille. Hein. Je suis encore plus fatiguée. Donc voilà, je suis dégoûtée. Ça se rembourse pas. Ça a du temps, c'est du temps. Hein. Donc voilà.
Tous ces voyageurs pourront entamer les démarches de remboursement normalement en fin de semaine.
Reportage Pierre Herbulot pour Europe 1. Et puis côté prévision, aujourd'hui, la SNCF promet le retour à la normale pour les TGV, les Ouigo, les Transiliens, mais toujours des difficultés dans les TER et les Intercités. Après la pagaille du week-end, donc la SNCF annonce le remboursement de 100% des billets, on le rappelle, avant un autre épisode de grève prévu cette fois le 5 décembre par la CGT Cheminot pour protester cette fois contre la réforme des retraites.
Conséquence directe de cette grève surprise, le boom des solutions alternatives. Pour en parler justement avec nous ce matin en direct, le président fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric Mazella.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Avec cette grève surprise de la SNCF, est-ce que les voyageurs dépités, on l'a vu, se sont retournés nombreux vers votre plateforme? Comment gérer cet afflux de dernière minute?
Alors oui, nous avons vu 4 fois plus d'inscriptions ce week-end que lors d'un week-end normal. Et 80% de nos voitures sur les grands axes s'affichaient complets et 90% de nos blablabus s'affichaient également complets. Donc le fait qu'on trouve désormais du covoiturage et des blablabus sur Blablacar a clairement fait de Blablacar la première solution de repli pour les passagers qui avaient subi des annulations de train.
Et est-ce que vous savez si toutes les demandes ont pu être satisfaites?
Alors forcément non, pas toutes. Cela dit, un grand nombre a pu être satisfait puisque alors on a vu beaucoup de comportements et de réservations en dernière minute, hein, c'est-à-dire pour réserver un trajet pour dans une heure ou deux, alors que généralement on réserve des Blablacar plutôt un jour ou deux à l'avance. Mais la plateforme est largement dimensionnée pour accueillir un afflux de passagers et heureusement nous avions fait appel à la solidarité des conducteurs pour proposer leur place disponible dans les voitures.
Et est-ce que vous savez justement
de rouler à vide?
Est-ce que les conducteurs ont du coup augmenté leurs tarifs au vu de l'offre qui a explosé?
Alors justement,
ou est-ce que tout le monde a été réglé?
Ouais, c'est justement la beauté du covoiturage. Les prix sont restés ceux du covoiturage. C'est-à-dire qu'il y a un bel esprit de solidarité dans la communauté de aujourd'hui 16 millions de membres en France sur Blablacar qui ont proposé leur place sans forcément changer, modifier les prix.
Merci beaucoup Frédéric Mazella, président de Blablacar, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.
Encore repoussé, les parlementaires britanniques ont voté hier pour un nouveau report du Brexit. Un coup dur pour Boris Johnson.
Une humiliation de dernière minute que le Premier ministre britannique veut rapidement oublier en remettant l'ouvrage sur le métier dès cette semaine, puisqu'il va tenter d'organiser un nouveau vote sur son accord. Les explications d'Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1.
Boris Johnson n'a pas l'intention de renoncer. Les déclarations des députés samedi indiquent que son accord aurait pu être approuvé. Il va donc tenter de le soumettre à un nouveau vote dès cet après-midi. Un plan B qui a de fortes chances d'essuyer un refus du président de la Chambre des communes, John Bercow. On ne vote pas deux fois sur le même texte. Mais Boris Johnson a un plan C qu'il pourrait déclencher dès mardi. Profiter du travail du Parlement sur la loi Brexit pour organiser un vote, une sorte de ratification déguisée de son accord, une manœuvre habile mais risquée. Quand les députés votent un texte, ils peuvent aussi l'amender. Et déjà, l'opposition parle de deux modifications majeures, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne et l'organisation d'un second référendum, deux amendements dont Boris Johnson ne veut à aucun prix. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Les affrontements se poursuivent au nord de la Syrie. Une partie des forces kurdes ne semble pas vouloir respecter l'accord de cessez-le-feu conclu par Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan.
Le président turc qui a initié cette opération militaire pour la sécurité de son pays, dit-il, mais aussi et surtout pour redorer son blason en interne, Jean-Sébastien Soldaini.
Recep Erdogan a beau placarder son portrait partout, même dans les villes qui lui sont opposées, il voit ses soutiens s'éroder. Aux récentes élections municipales, son parti a notamment perdu Istanbul. Selon Sunna, avec cette intervention militaire, le président a saisi une occasion de se relancer.
Il était en difficulté et avec une autre stratégie, il ne serait arrivé à rien. Et là, avec des armes, des bombardements, ça va être beaucoup plus simple pour lui et son équipe. Quand vous regardez la télé turque, c'est de la politique va-t-en-guerre partout.
Du nationalisme grand spectacle qui joue sur la corde sensible, ce jeune Kurde voit sa communauté comme un bouc émissaire.
Les Kurdes font partie de la stratégie d'Erdogan. Il y a 3 ans, il a lancé des discussions avec les Kurdes d'Irak. Ça lui a fait perdre des points de popularité. Du coup, il a changé de tactique. Et les Kurdes en font les frais. Ça se traduit par des opérations militaires et des discours anti-kurdes.
Tactique déjà éprouvée par Erdogan, son intervention contre Daesh à Afrin en 2016 lui avait permis de se donner un peu d'air. Chan Yurfa, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Europe 1, il est 6h09, la suite du journal. Chloé Triomphe, Mathieu Béliard.
Et c'est l'histoire d'un succès qu'on vous raconte ce matin sur Europe 1. C'est l'histoire de la résurrection d'une région économiquement sinistrée. Le territoire des Mauges, nous sommes dans le Maine-et-Loire.
Oui, depuis les années 90, les usines de textile avaient fermé les unes après les autres. Et pourtant, aujourd'hui, on peut parler d'un petit miracle avec un taux de chômage à 5%, bien en deçà donc de la moyenne nationale à 8,5%. La clé, une reconversion dans le luxe, la haute technologie, la construction et l'agroalimentaire à tel point que la région recrute et les entreprises ouvrent leurs portes au public jusqu'à la fin du mois. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
On est vraiment très soudés, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, beaucoup de transmission entre les anciens et les plus jeunes. Il y a vraiment une forme de bienveillance. Tout le monde œuvre pour le même but, comme dans une belle équipe.
50 salariés chez Romain Bidel, un des leaders français de l'agencement intérieur qui travaille pour les plus grands décorateurs, dont des palaces et des enseignes de luxe du monde entier. Nous sommes à Jalès, 3200 habitants.
Ce qu'on fait ici, demain, on ne peut pas le créer autre part. Ça repose sur des années de travail ensemble qui fait qu'on arrive à un niveau de résultat, que tout le monde a envie d'y arriver. Donc il y a une fierté, une envie de bien faire, une envie de réussite.
À 20 km de là, une usine à la campagne, Lacroix Electronics, 450 salariés dans la haute technologie. On y fabrique des pièces pour le Rafale, Airbus ou Boeing. Là aussi, c'est l'humain qui est le capital numéro un. Emmanuel Landru, responsable du site.
Ici, on a des gens très engagés, très volontaires, très fidèles aussi, constructifs surtout, et c'est ça qui est important. C'est une culture d'humilité et le sens du travail bien fait qui est vraiment poussé. Et je pense que c'est ça qui caractérise la région. On veut construire une nouvelle usine et on a décidé de le faire à proximité pour pouvoir garder nos employés qui sont la richesse de l'entreprise en fait.
9000 entreprises se serrent les coudes sur ce territoire rural à forte identité. Les Mauges, François Coulon, Europe 1.
À Toulouse, c'est un meurtre particulièrement sordide qui doit être jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises, celui d'une femme assassinée par sa collègue de travail.
Cette dernière aurait agi par jalousie. Elle s'est débarrassée du corps coupé en morceaux dans le canal du Midi, ce qui lui a valu ce sinistre surnom de dépeceuse du canal, Benjamin Péter.
Elle voulait montrer qu'elle n'était pas cette collègue parfaite que tout le monde décrivait, prouver qu'elle cachait chez elle des dossiers de personnes qu'il suivait à la GFIP, cette association pour personnes handicapées. Alors elle l'a attendue, chez elle l'a frappée à plusieurs reprises avec une bouteille de vin. Sauf que quand elle réalise que la victime est morte, elle se rend compte qu'elle ne peut pas transporter son corps. Alors après plusieurs jours, qu'elle passe chez des proches, à Montpellier, Sophie Massala revient, achète une scie à métaux, des sacs poubelles pour sa macabre besogne et après plusieurs voyages, fait disparaître sa victime dans le canal du Midi. Elle ne va garder que sa tête, qu'elle enterre sous quelques centimètres de terre, dans son propre jardin. Pour maître Georges Catala, l'avocat des proches de la victime, la préméditation ne fait aucun doute.
C'est une femme qui, d'une façon très curieuse, a planté la corne, si je puis dire, à l'encontre de ma cliente. Elle n'a cessé de dire qu'elle a haïssé. Et elle va se saisir des clés de la victime. Elle va se tapir en l'attendant pendant près d'une heure, une heure et demie.
Sophie Massala, elle affirme qu'elle n'a jamais voulu la tuer, juste s'expliquer avec sa collègue. Et c'est précisément cette question du mobile, de la préméditation, qui sera au cœur des débats pendant toute cette semaine, alors que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
On peut parler d'une vente aux enchères tombée du ciel.
Oui, exactement, Mathieu, au sens propre du terme, puisqu'il s'agit d'objets venus de l'espace vendus à l'hôtel des ventes de Drouot aujourd'hui. Et parmi eux, des météorites, morceaux de lune, morceaux de Mars tombés sur Terre, comme cette météorite du Mont Dieu tombée en France au 19e siècle, lors d'Autriche.
C'est une météorite qui pèse 364 kilos, qui est un peu ocre, marron, et qui est estimée 80 000 à 120 000 euros.
Ce gros caillou dont parle le commissaire priseur Christophe Lucien a été découvert en 2010 dans une forêt des Ardennes grâce à un détecteur de métaux. Sur le marché, il y a aussi des météorites plus petites qui viennent de la Lune ou de Mars et dont les prix aujourd'hui flambent, confirme Luc Labène, chasseur de météorites.
Il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs et il n'y a pas suffisamment de nouvelles météorites qui sont découvertes. J'ai des coups de fil et des messages de personnes qui pensent avoir trouvé des météorites dans leur jardin ou sur un chemin. Je peux vous dire, ça fait 20 ans que je fais ça, ce n'est jamais arrivé que dans ces cas ce soit une météorite.
Parmi les acheteurs potentiels, il y a Manuel, commercial, dans la vie. Il a déjà déboursé 4000 euros pour s'offrir une météorite de quelques centimètres.
Cette pierre, qui est plus vieille que tout ce que vous pouvez imaginer, hein, elle date de la formation du système solaire. Un jour, elle arrive sur Terre, un jour, elle arrive entre vos mains.
Et pour 30 ou 50 euros, vous pouvez tout de même vous offrir un morceau de météorite de quelques millimètres.
Un reportage de l'Ordre
d'Autriche. Ça fait un beau cadeau, cela dit. Je sais qu'on va approcher de la période des fêtes. Bon, cette météorite dont on parlait au début est un peu chère, mais vous entendez l'or, il y a quelques millimètres de météorite pas trop chère.
Bah, ça se tente. C'est aujourd'hui à
Drouot. Des pierres précieuses, c'est pas mal quand même comme cadeau. Ça vient des étoiles.
Des étoiles dans les yeux. Voilà. Allez, la gueule de bois du rugby français après l'élimination de la France hier de la Coupe du Monde. Une défaite 20 à 19 contre le Pays de Galles. Et puis du football, c'était hier soir. Marseille respire un peu après sa victoire contre Strasbourg 2 à 0 au terme de la 10e journée de Ligue 1. On rappelle que Saint-Etienne s'est imposé à Bordeaux 1 à 0 et Monaco face à Rennes 3 buts à 2.
Merci Chloé Triomphe et bienvenue. C'était le journal de 6h, un nouveau journal à 6h30 tout à l'heure avec Jérôme Lacroix. Il est 6h15.